va être en compagnie du coucher tard à soir. Oh, match numéro 7, Blue Jays Mariners.
Coupe de TV, là. Je sais pas comment est-ce qu'on peut...
On va s'arranger, ben, on va s'arranger.
La zapette?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Salut, Marc!
Hey, Marc! Bonjour, Marc!
Salut les gars!
Marc, écoute, je sais que là, évidemment, les Mariners espéraient gagner le match, c'est une évidence. Mais hier, quand je regardais la rencontre, j'avais l'impression qu'il y avait une équipe qui était plus affamée que l'autre. On a vu quelques petites erreurs de nonchalance, à mon avis, du côté des Mariners. Julio Rodriguez dans le champ centre, Suarez qui essaie de retenir le coureur, attrape pas la balle. Finalement, ça a permis aux Jays d'inscrire des points et on n'a plus jamais regardé derrière.
Je sais pas si c'est nonchalance, nervosité, mais certes, on le dit souvent depuis le début de les séries, ouvre pas la porte à l'autre équipe en commettant des erreurs. Là, on en commet deux dans la même manche. Puis donnons un peu de crédit à Ernie Clement. T'sais, balle frappée, là, tu le sais, là, t'as frappé une balle d'aplomb, mais directement au joueur de troisième but. Il a couru tout le long. S'il court pas, dès qu'il quitte le rectangle des frappeurs, il est retiré.
C'est
Suarez, il a jonglé. Fraction de seconde avec ce balle-là.
Mm-hmm,
là.
Mm-hmm.
Mais il est sauf pareil. Alors, c'est l'élément qu'on néglige souvent lorsqu'on fait les prédictions. On parle qui va être partant, puis qui va venir comme releveur, puis les gars vont-tu frapper. Et la défense, les gars, combien de fois on parle de la défense et de la course sur les buts. Puis j'ajoute en passant, en parlant de course sur les buts, la course de Vlad entre le 2 et le 3e sur la balle échappée ou jonglée par Cal Riley, puis qui crée l'erreur. C'est comme ça qu'on joue à balle, les gars, puis c'est comme ça. Rappelez-vous, là, j'avais passé à l'émission là, d'avant-série, puis je vous disais, les Blue Jays sont achalants. Mm-hmm. Parce qu'ils profitent, ils courent, ils font des affaires que d'autres équipes font moins, puis on l'a vu dans le match d'hier, là, ça a été... on a exposé les Mariners sur certains aspects du jeu, puis ça a profité nettement aux Blue Jays.
Oui, puis Marc, tu sais, rapidement sur Vlad, parce qu'après ça, je vais t'amener sur la course de Crawford, là, mais Vlad, là, se comporte comme un leader présentement.
Mais c'est...
Et si on revient quelques années en arrière, là, les années de la clique, là, Teoscar Hernandez, puis Lourdes Gurriel, jamais j'aurais identifié Vlad, évidemment, comme un très bon joueur, mais comme un meneur dans le vestiaire, ça me surprend, moi, de voir ça aujourd'hui.
Écoute, lui, il a passé sa vie dans les vestiaires. Et on avait l'impression que ça a peut-être pris un petit peu de temps là, avant qu'il prenne une certaine maturité. Mais regarde, écoute les entrevues d'après-match hier. Et tout le monde, c'est unanime. Vlad, c'est wow, c'est Vlad. On le regarde aller. C'est ce que les gens disaient, c'est que bon, ce qu'on voit à la télé, c'est spectaculaire. Ce que les gens ne voient pas, ce qui se passe avant les matchs, on arrive tôt. La bonne humeur qu'il apporte, tout le monde est détendu à le regarder aller. Ça compte pour beaucoup à longue des attitudes comme ça. Puis t'as raison de le mentionner. C'est puis là, ben évidemment, il répond par la bouche de ses canons. Je veux dire, il est enfin sur la grande scène du baseball. Tu sais, les Blue Jays n'ont jamais joué dans le baseball du dimanche soir sur la scène nationale en saison régulière. On choisit jamais les Blue Jays. Fait que là. C'est la première fois que les gens, les Américains, par exemple, là, qui peuvent entendre parler de Vlad, ils le voient de temps en temps lorsqu'ils vont jouer, vous êtes contre leur équipe aux États-Unis. Et là, sur la grande scène, là, c'est incroyable. Je pense que les gens réalisent à quel point c'est un vrai de vrai. Là.
Ben oui, hier encore, deux coups sûrs, mais ça aurait pu être trois coups sûrs si c'était pas du plongeon de Suarez avec les buts remplis.
Mais
là.
Moi, c'est pas juste des coups sûrs. Défensivement, il est hot en tabarouette.
Mais
sérieux, là.
Hey, sont deux. La balle à sérieux, double jeu là, qui amorce au premier coussin. Là, techniquement, Marc, là, c'est pas un jeu facile pour le joueur de premier but.
Ben, puis l'autre aspect, tu as tout à fait raison de le mentionner. Puis l'autre aspect, c'est l'endroit où il joue parce que avec le bras que Vlad a, il est capable de jouer un peu plus éloigné. Quand tu joues plus éloigné du premier but, ben, tu couvres plus de terrain. Il y a bien les premiers buts, là, faut que tu triches un peu, il faut que tu avances, faut que tu sois un petit peu juste derrière le coureur pour être capable de faire des jeux de même. Lui, là, il n'y a pas de problème, il recule, il a lancé une prise à Jiménez au deuxième pour par la suite compléter le double jeu. Fait que, c'est sûr que Vlad, mais rappelez-vous, c'est un jour le troisième but au départ, puis pas parce que évidemment, il était peut-être moins mobile à l'époque, mais le bras a toujours été là. Rappelez-vous du bras du paternel.
Ah, absolument.
Le bras de Junior, il est un des très bons bras. Puis alors, au premier but, on l'expose moins, ce bras-là, mais quand c'est le temps de tourner un double jeu, ça fait toute la différence.
Ben oui, trois double jeux de suite de la part des Blue Jays, dont deux avec des bleus remplis. Mettons que ça a donné un petit coup de main à Trey Savage, qui a été encore une fois excellent sur la butte. 5 manches et 2 tiers, 6 coups sûrs, 2 points mérités et 7 retraits au bâton. Yes, Savage, c'est the real deal. Honnêtement, d'être capable de se comporter de la sorte en éliminatoire à sa saison recrue.
Hey, c'est une game, c'est une pressure game hier, là, sérieux. Là.
Fait face à l'élimination, hey. Je comprends que t'es à la maison, là. Mais il est vraiment impressionnant, Marc. 22 retraits sur des prises. Il est à égalité au deuxième rang dans l'histoire du baseball majeur pour le plus de retraits au bâton après 3 départs pour une recrue en série.
Ah ouais.
C'est du stock quand même. Wow.
Impressionnant. Une maturité là, hors norme, on va se le dire. Là, arriver, dans, comme Gilbert a dit, dans des moments critiques comme ça, c'est exceptionnel. Puis honnêtement, c'est probablement le plus grand défi, c'est de contrôler ton rythme cardiaque, puis contrôler les émotions, puis pas serrer la balle trop. Alors qu'on sait qu'on lançait une balle fronde, c'est pas évident. Là, c'était si facile, tout le monde la lancerait.
Mm-hmm.
C'est son comportement qui est extraordinaire. Hier, ben, juste en réussissant à placer sa balle rapide de temps en temps, juste ça là, a fait en sorte que on a pu utiliser sa balle fronde un peu mieux qu'à son dernier départ face aux Mariners de Seattle. Puis il le dit, il dit, écoute, regarde, j'ai besoin d'une bonne défense. Ben, on a parlé des doubles jeux, mais il y a eu d'autres jeux aussi très, très solides de la part des Blue Jays. Donc, victoire d'équipe, il n'y a pas de doute là-dessus. Là.
Ah, puis quand tu dis victoire d'équipe, victoire de toute la formation de frappeurs. Tu sais, c'est oui, Vlad, oui, c'est vrai. Good. Mais le bas de la formation, tu fais le travail aussi. Les frappeurs 7-8-9 en série de championnat. 4 circuits, 12 points produits, 8 coups sûrs pour plus d'un but, 333 de moyenne avec des coureurs en position de marquer. Et hier, la majorité de ce travail-là a été fait par Addison Barger, qui est allé frapper le gros coup sûr et par la suite, le circuit. C'est le fun de voir que tout le monde est capable de contribuer.
Vraiment. Et tu sais, je suis très heureux parce que au début du mois de mai, j'avais écrit une chronique sur RDS qui parlait d'Addison Barger. Il avait frappé juste un circuit à ce moment-là. Puis j'avais mentionné, tu sais, je voyais des élans, puis je voyais quelque chose. Je dis, ce gars-là, là, s'il débloque moindrement, là, on va. Puis là, c'est à l'époque où Santander, on ne sait pas trop ce qui se passait avec lui, il était toujours blessé. Puis j'ai dit, peut-être on n'est pas obligé d'aller aller ailleurs pour aller chercher le coup de bâton qu'on a besoin. Mais il me semble qu'on a un potentiel là. Puis honnêtement, j'avais vu juste parce que il n'avait jamais réussi à mettre tout ça ensemble. Il avait été rappelé à quelques occasions au cours des dernières années. Puis, mais là, ce gars-là a pris un bond extraordinaire. Puis écoute, c'est une réelle menace. Puis c'est pas évident, les gars. Il a changé son approche au bâton dans le match numéro 4. Là, il est en série de championnat. Puis mécaniquement, tu décides, non, moi, il faut que je mette mes mains un petit peu plus hautes. C'est ça qu'il a fait. Il a mis ses mains un petit peu plus hautes. Il trouvait qu'il, excusez l'expression, mais qu'il chopait la balle. Il n'avait pas les élans qu'il voulait sur les bons lancers. Alors, imagine-toi, là, il a changé mécaniquement là, un aspect de son élan. Puis, paf, on l'a vu dans le match 5 à quel point c'est important. Puis là, évidemment, le gros circuit dans le match d'hier. Fait que, tu sais, ça démontre une belle maturité, mais ce gars-là est tellement important dans le rôle offensif. Enfin, ils sont tous, tu l'as dit, là, c'est de 1 à 9, mais t'amènes une puissance comme ça au septième rang du rôle offensif. Je veux dire, t'es équipé pour veiller tard. Là.
Ah ben oui, ça, c'est sûr et certain.
Est-ce qu'Hoffman a lancé une manche de trop hier? Selon notre collègue Deso, lui, il dit qu'il a lancé une manche de trop.
Non, faut que tu... Moi, j'étais totalement d'accord de retourner avec Hoffman. Tu sais, ce qu'il t'a donné en huitième, fais-le en neuvième. Tu sais, moi, je suis pour. Tu sais, les gars, on s'obstine, pas s'obstine. Et des fois, on discute. Bon, est-ce qu'on aurait dû garder Ian Savage un lanceur, ou c'est-à-dire un frappeur de plus, ou Gausman? Chaque frappeur que tu peux aller chercher comme lanceur partant, là, je trouve que c'est un boni. Mais surtout, la raison pour laquelle j'aime ça aller, tu sais, chercher un retrait de plus pour un partant, ou dans le cas d'Hoffman hier, c'est que tu sais ce qu'il va te donner, là. Tu l'as vu, là. Il n'y a pas une surprise. Il est capable de lancer sa glissante était bonne. Oups, il a échappé une coupe de balle fronde, mais il s'est bien repris. Moi, j'étais totalement d'accord. Je le sais qu'il y a un autre match aujourd'hui. Je suis totalement conscient de ça. Mais là, aujourd'hui, là, tout le monde est disponible. Gausman va lancer aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, là. Il va lancer. Est-ce qu'il va lancer la 7e, la 8e, peut-être même la 9e? Qui sait? Mais moi, j'avais pas de problème avec l'utilisation de Hoffman hier.
OK. Intéressant. Ce sera George Kirby contre Shane Bieber ce soir pour le match numéro 7. Marc, faut absolument prendre du temps pour parler des Dodgers qui sont encore une fois cette année.
Hey, quelle performance? On n'a pas parlé de ça.
Shohei
Ohtani, là. Moi, j'ai vu Reggie Jackson. Tu sais, Marc, on l'a vu Reggie Jackson dans les années 70, 3 circuits. Mais là, de lancer puis de frapper en même temps, c'est
jamais vu. Il n'y a personne qui a fait ça.
C'est la meilleure performance all-time que j'ai vue dans ma vie, moi. Sérieux, là.
Meilleure performance individuelle, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoutez, là, tu parles de Reggie Jackson. Hey, les 3 circuits de Jackson contre les Dodgers, Ouais, mais Jackson, il a-tu retiré 10 gars sur des prises au
c'est ça. Incroyable.
C'est incroyable. Ça. Non, mais on a vu l'histoire sous nos yeux dans cette série-là, dans ce match-là, parce que, tu sais, je veux dire, même les joueurs, tu sais, je parle de Freeman ou de Mookie Betts, puis ils disent, c'est n'importe quoi, cette affaire-là, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez vu, là.
Le deuxième circuit à 469 pieds, je pense.
C'était un coup de canon. Le son que la balle fait contre son bâton, il est différent. Mais ce que j'ai aimé, là, il lance la première manche. Je me rappelle bien, il y a deux retraits sur des prises. Et troisième retrait, il s'en va en jogging à l'abri. Il ne s'en va pas dans l'abri, en fait. Il reste en haut. Il enlève sa casquette, son gant, met son casque. Il est le premier frappeur. Il met son
c'est fou,
c'est incroyable.
Il présente son bâton. Il y a ça que l'autre bord.
On dirait du baseball mineur.
Oui, c'est
mais
ça.
Non, mais on est loin de l'époque où le gars arrivait dans le dugout, là, le lanceur, puis là, le trainer s'empressait de mettre un jacket sur le dos pour le garder réchauffé, puis tout ça. Hey, lui, là, c'est pas ça pour un temps.
Non, mais tu sais, au baseball mineur, le lanceur, c'est ton meilleur frappeur aussi. C'est le fils du coach, puis là, c'est le premier frappeur. Mais on dirait que c'est ça, Colin.
Non seulement ça, dans les majeurs, les gars, là. Il y a une routine qui s'installe pour les lanceurs partants. Ils se concentrent sur leur départ aux 5 jours. Lui, c'est pas ça, là. Il frappe à tous les jours. Il y a juste la journée d'avant où on le laisse se concentrer. Mais à part ça, là, il est là tous les jours sur le terrain.
C'est
phénoménal. Moi, je trouve même pas les qualificatifs pour parler de Shohei Ohtani, tellement c'est spécial ce qu'il fait.
En tout cas, je nous trouve chanceux de pouvoir vivre.
C'est vrai qu'on est chanceux.
Honnêtement, je suis pas sûr qu'on va en voir d'autres, mais ce qui démontre, c'est que les gens vont dire « Ouais, il frappe, il lance. Hey, écoute, c'est tellement difficile. Hey, c'est les meilleurs joueurs au monde. » Là, il affronte les meilleurs frappeurs au monde. Il en tire 2 sur des prises en première. Il s'en va faire ça. Il en tire 8 autres sur des prises. Il en s'accune à 470 sur le toit du pavillon au Dodger Stadium.
C'est loin, ça, là.
Puis il m'a dit, la 470, c'est une estimation. Moi, il m'a dit, là, il est proche de 500.
Marc, on n'a pas vu vraiment de temps, mais je veux quand même t'entendre. Dave Roberts, après le match, il est allé de la déclaration suivante. Je paraphrase, évidemment, c'est en anglais, là. Certains disent que les Dodgers ruinent le baseball. Allons chercher 4 victoires de plus et ruinons le baseball pour de vrai. Tu sais, je comprends la confiance, puis c'est normal. C'est le gérant, il veut gagner et tout, là. Mais est-ce que les Dodgers... c'est vraiment bon pour le baseball? Parce qu'il y aura des yeux sur la Série mondiale, parce que c'est un grand marché, encore une fois, qui est en finale. Mais c'est-tu bon sur le long terme d'avoir toujours des super puissances comme ça au sein de la MLB?
Ouais, premièrement, j'ai pas aimé sa déclaration. Je suis pas sûr que c'était le temps de la faire. Là. Ça, c'est mon opinion personnelle. Écoute, c'est sûr que ça va... Si les Dodgers remportent la Série mondiale haut la main, que ce soit contre les Jays ou contre les Mariners, ça va faire partie des négociations de la convention collective qui se termine après l'année prochaine. C'est clair que là, on va dire, là, c'est assez, là. Mais, tu sais, entre une équipe qui dépense beaucoup et plusieurs équipes qui dépensent pas du tout, tu sais, je suis pas prêt à blâmer trop les Dodgers là-dessus. C'est-à-dire que les Dodgers vont dépenser 90% de ce qu'ils font en revenus, on va le dépenser dans l'équipe. Fait qu'ils dépensent beaucoup puis ils en font beaucoup. Puis 90, j'exagère peut-être un peu, mettons à 75, là, c'est déjà beaucoup. Alors que tu as la moitié des équipes du baseball majeur en ce moment qui dépensent à peine 30-40% de leurs revenus sur leur masse salariale. Fait que, tu sais, s'il y a des équipes qui dépensaient, là, je parle des revenus qu'ils font, puis le partage des revenus qu'ils reçoivent, puis là, ils ont un montant d'argent, puis tu dépenses 30-40% de ça sur ta masse salariale.
Au lieu de 70-75 comme les Dodgers.
Exact. Fait que c'est là que je trouve que c'est là qu'il faudrait que l'écart soit moins grand. Tu sais, on se dit... parce que, tu sais, les Dodgers, là, ils dépensent beaucoup, hein, mais ils font tout bien. Ils développent bien, ils repêchent bien. C'est une grosse équipe derrière pour préparer ces gars-là. Fait que, c'est une équipe, une organisation de première classe. Mais c'est vrai que de dépenser autant, c'est un petit peu agaçant. Par contre, comme je vous dis, moi, là, je voudrais pas niveler par le bas, je voudrais niveler par le haut. Fait que ceux qui sont en bas, ils dépensent pas pour aider leurs produits puis aider leur situation, ben, c'est là. Fait que peut-être qu'on va négocier éventuellement un plancher au lieu d'un plafond.
Ouais.
Mais ça reste que si les Dodgers gagnent la Série mondiale cette année, puis que l'année prochaine, ça recommence encore, parce qu'avec le staff qu'ils ont, d'après moi, ça va recommencer encore, ben ça va faire partie des négociations, certainement. Moi, je sais qu'on vit des beaux moments dans le baseball, mais ça m'inquiète, moi, la saison 2027 m'inquiète beaucoup dans le baseball majeur.
Ouais.
Ah, moi aussi, le conflit de travail peut-être qui nous pend au bout du nez. On aura les précisions dans quelques mois. Merci Marc, on va se reparler demain, même heure si t'es disponible, pour revenir sur le match numéro 7 Blue Jays Mariners.
Yes, demain Marc.
Salut les gars, le match numéro 7 là.
Yes sir, bye bye. Vous seriez prêt à donner quoi pour une victoire des Canadiens? En tout cas, on en sait plus que Ryan Warsawski serait prêt à donner pour une victoire des Sharks. Puis si vous l'avez pas entendu la clip, vous allez faire le saut, je vous le dis tout de suite, restez là.